Radio Okapi.
Je suis Moussa Oponde pour les journaux.
Okapi.
Le programme de réinsertion de plus de 1700 ex-combattants basés à Kamina a été lancé hier par le ministre de la Défense. La cérémonie s'est déroulée à la base militaire de cette ville du Katanga en présence du chef adjoint de la MONUSCO. Deux blessés dont un grave et plus de 50 maisons incendiées. Bilan des accrochages depuis lundi entre deux clans en territoire de Boussoumélo à l'Équateur. La pêche sur la rivière Momboto est au centre de ces conflits. Pas de matériel médical ni de médicaments, encore moins de salaire pour le maigre personnel soignant. Le centre de santé de Kabumbulo au Katanga est confronté à tous ces problèmes. L'infirmier titulaire lance un SOS pour la remise en l'état de cet établissement. Bonjour à tous. Lancement hier à la base militaire de Kamina de la troisième phase du programme global désarmement, démobilisation et réinsertion DDR. C'est sous la direction du ministre de la Défense Aimé Ngoy Mukena et en présence du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, David Gressley. Ces programmes financés à hauteur de 85 millions de dollars américains par le gouvernement congolais avec l'appui de ses partenaires extérieurs couvre une période de 4 ans et concerne la réinsertion de plus de 1700 ex-combattants. Les détails avec Askenzik Batayoro de retour de la base militaire de Kamina.
Le site de la base militaire de Kamina héberge actuellement 1739 ex-combattants candidats à la réinsertion. Ils sont accompagnés de 43 dépendants. Ces ex-combattants disent être contents du démarrage effectif du processus de leur démobilisation qui d'après eux traînait un peu.
Je suis content comme on me fait démobiliser. Je veux assez que je rentre chez nous pour garder ma famille. Je ne peux pas recourir aux armes. Je n'ai pas gagné quelque chose. Ce n'est que pour perdre l'État pour rien.
La société civile de Kamina a salué les débuts de ce programme de DDR3. Le coordonnateur de cette structure conseille aux autorités compétentes de ne pas abandonner ce programme à mi-chemin. Gilbert Dita Kalinga.
Qu'on voit comment toujours les accompagner, les soutenir, pour que qu'il n'y ait pas de déviation partout où ils sont là, qu'on les accompagne.
Le ministre de la Défense nationale, Accès combattants et réinsertion s'est dit confiant quant à la réussite de ce programme avec des fonds engagés par le gouvernement central et les Nations Unies.
Ce qui me rassure, il y a non seulement l'engagement du gouvernement, mais il y a aussi l'engagement de la communauté internationale. Donc c'est un programme qui a des assurances de survie.
Sachez qu'au bout de 6 mois, le FAO va former ses ex-combattants à des divers métiers de leur choix avant de réintégrer la vie civile.
Direction Kisangani en province orientale, le bureau de contrôle et des vérifications internes de la coordination provinciale de l'environnement dénonce la confiscation mardi dernier par des militaires de 33 mètres cubes de bois scié. Il s'agit de bois saisi la semaine dernière par cette coordination provinciale, bois appartenant à des exploitants artisanaux non en règle par rapport à la législation en la matière. Explication Selma Massoa.
La confiscation de ces bois a eu lieu dans la forêt de Kayete à 65 km de Kisangani dans le territoire d'Ubundu. Elle est intervenue selon les bureaux de contrôle de la coordination professionnelle de l'environnement au moment où l'équipe de la coordination les chargeait dans un véhicule pour les acheminer à Kisangani. Deux militaires FRDC armés accompagnés de 10 jeunes civils ont surgi sur l'endroit et ont obligé l'équipe de la coordination à décharger ces bois du véhicule de la coordination pour les charger dans le leur, affirme la même source, et de poursuivre qu'aussitôt le chargement terminé, le véhicule amené par les militaires quitte la forêt en prenant la route Lubutu vers la province de Maniema. Contacter le commandant des militaires incriminés promet de se pencher incessamment sur ce dossier. Notez que ces bois confisqués font partie du lot de 500 mètres cubes de bois saisis la semaine dernière par la délégation de la direction de contrôle et vérification interne du ministère de l'Environnement et Développement Durable venu de Kinshasa. Kisangani, Anselme Massoa, Radio Kapi.
Une vive tension règne depuis lundi dernier au groupement Bokbonga, territoire de Boussoumélo, dans la Mongala. À l'origine, un conflit oppose deux clans qui se disputent la pêche sur la rivière Momboto, très poissonneuse. Les accrochages entre les deux parties ont déjà fait 2 blessés, dont un se trouve entre la vie et la mort et une 50aine d'habitations incendiées. Dominique Olombi Mongampangi nous fait le point.
Les conflits entre les deux communautés qui se disputent la pêche sur la rivière Momboto avaient pris une ampleur inquiétante. Ces deux communautés ont saisi le chef de groupement des Bongbonga qui a entendu les deux parties. Alors que celui-ci devait trancher l'affaire le lendemain, il a été poignardé dans la nuit de dimanche à lundi. Par vengeance, son fils a tiré avec une arme à feu sur l'un des agresseurs de son père qui l'a blessé grièvement, ce qui a provoqué l'escalade. Les accrochages entre les deux clans qui ont suivi ont fait 52 habitations incendiées. Informés, les militaires de la force navale plus proche basée à Makanza sont intervenus. Ils ont acheminé le chef de groupement Lili Bamba blessé à l'hôpital général de référence de Makanza. Les poumons atteints, son cas estime son médecin traitant, nécessite une évacuation vers Mbandaka ou Kinshasa pour des soins appropriés. La tension reste vive, la situation risque de dégénérer en cas de décès du chef de groupement. Le ministre provincial de l'Intérieur, Michel Lié, le dit avoir instruit les autorités sécuritaires de Bungandanga, notamment la police, pour s'interposer entre les deux communautés. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
En pensée, ces événements totalement finis, mais voilà que les expulsions de Congolais de la RDC vivant au Congo-Brazzaville reprennent de plus belle après juste un bref moment d'accalmie. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas de Congolais vivant dans la capitale qui sont expulsés, mais plutôt ceux vivant à Pointe-Noire, la deuxième ville du Congo. Radio Okapi a assisté à la vague de ceux arrivés hier jeudi, une centaine au poste frontalier du Beach Ngobila à Kinshasa. Les infortunés, un peu comme ceux de vagues précédentes, parlent eux aussi des brutalités. Un reportage de Dona Madimba.
Ils s'arrachent presque tous les uns les autres la parole pour nous rapporter leur calvaire.
Moi, on m'a raflé sur le chemin du boulot. Moi, ce qui me concerne, on m'a raflé à mon lieu de travail au marché.
Ils sont surtout des jeunes hommes, coiffeurs, manutentionnaires, bref, faisant de petits métiers.
Moi, je suis boucher. Moi, je suis maître peintre.
Mais aussi des quadragénaires et pères de famille.
J'ai 42 ans.
Ils sont enfin arrivés à Kinshasa, expulsés de Pointe-Noire, deuxième ville du Congo Brazzaville, dans le cadre de l'opération d'expulsion des sans-papiers dans ce pays qui, selon des informations reçues, touche désormais Pointe-Noire. Mais selon ces refoulés congolais, ces expulsions continuent d'être brutales et à causer de nombreux morts.
On était détenus dans de très mauvaises conditions. Il y avait de l'étouffement et j'ai vu au moins 7 personnes mourir. Moi, par contre, j'en ai vu 6.
Ils racontent surtout avoir tout perdu, parfois même leur famille.
Je suis désormais séparé de ma femme et de mes deux enfants qui, eux, sont restés au Congo.
La vague de Pointe-Noire a commencé depuis quelques jours déjà. Et à ce stade, les témoignages rapportent au moins une centaine de Congolais expulsés du Congo voisin chaque jour.
En Ituri, des habitants de Mongualou, une cité minière située à 80 km nord de Bunia, s'insurgent contre la nomination par les gouverneurs de la province orientale d'un fonctionnaire résident à la tête de leur entité. Dans une pétition signée par plus de 400 personnes et adressée au Premier ministre, ces habitants disent que la décision de Jean Bamanissa est contraire à une circulaire du ministre de l'Intérieur qui interdit au gouverneur toute nomination jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement provincial justifie sa mesure par le souci de combler un vide administratif. Marcel Kiza.
Les fonctionnaires résidents du Mongualou, Gilbert Ochoun, a été installé dans ses fonctions mercredi dernier par l'administrateur du territoire d'Indjougou. Cela en remplacement de Jean-Pierre Bekilisende, ancien chef des cités de Mongualou. La cérémonie s'est déroulée sur fond des contestations des habitants du milieu. Dans leur pétition, ils s'insurgent contre la décision du gouverneur des provinces désignant un fonctionnaire résident à Mongualou après la suspension des cités par le gouvernement central. Selon eux, cette décision est contraire à la note circulaire du 20 mars 2015. 15 du vice-premier ministre chargé de l'intérieur Évariste Boshab. Contacté, le ministre provincial de l'intérieur indique que la décision du gouverneur Bamanissa ne viole aucune disposition légale. Jean-Claude Essouka parle d'une affectation intérimaire des anciens fonctionnaires pour la continuité de la gestion des entités supprimées.
La note circulaire, elle est muette. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vide administratif à ce niveau-là. La compétence d'affectation des personnels déconcentrés revient à la...
Le ministre provincial de l'Intérieur appelle les habitants de Mongualou au calme et à ne pas céder à ce qu'il qualifie de manipulation politicienne. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Terminons au Katanga, le centre de santé de Kabumbulu dans les territoires de Malembankoulou est dans un piteux état. Il est confronté à plusieurs difficultés, notamment le manque de matériel et de médicaments. Le personnel est impayé depuis des lustres. L'infirmier titulaire plaide pour la réhabilitation de cette structure sanitaire afin de venir en aide à cette population meurtrie par plusieurs incursions de miliciens Maïmaï. Jean Gandou.
Cette salle aussi n'est pas bien aérée, il n'y a pas de rideaux. Le matériau de l'accouchement n'est pas complet, nous travaillons dans des souffrances. C'est très très compliqué aussi.
C'est par ces mots que l'infirmier titulaire de ce centre de santé résume les difficultés de fonctionnement auxquelles est confrontée cette structure médicale. Ce centre de santé, qui a aussi en son sein une maternité, dispose d'une salle de consultation, d'une pharmacie, d'une salle d'hospitalisation et d'une salle d'observation. Toutes ces salles sont presque pas équipées. La pharmacie contient plus de cartons vides que de produits pharmaceutiques. La salle d'accouchement compte 3 lits, dont un seul est doté d'un vieux matelas, dont d'une âme généreuse. Ces 2 salles sont peu aérées et truffées de beaucoup d'insectes. La salle d'hospitalisation a 5 lits, tous sans matelas. Seules 5 vieilles nattes y sont placées. Dans cette salle d'hospitalisation, on peut y percevoir les oiseaux et autres insectes faire le va-et-vient. Ce centre de santé compte 3 infirmiers et 2 matrones pour une population estimée à plus de 9000 âmes. Ce maigre personnel est impayé depuis de lustres. Quelques minutes avant notre arrivée, un enfant de 5 ans venait de rendre l'âme par manque de produits pharmaceutiques. De retour de Kabumbulu, Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Au Kapi, au Kapi, au Kapi.